au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 12 novembre à l'émission, aujourd'hui avec nous Pierre-Luc Belle-Rose, maire de Joliette. Il sera question entre autres du marché de Noël avec Pierre Paquette. On va parler de rumeurs qui envoient Mario Dumont à la tête de la CAQ et aussi de la remontée des libéraux provinciaux dans les sondages. Michel Montpetit sera avec nous, il est président de l'Ordre des agronomes du Québec. On va parler de la loi qui régit la profession qui n'a pas été modernisée. Écoutez ça, là, depuis 52 ans. Également, André Nadeau, président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette. Il sera question de la guignolée. Mathieu Bélanger, analyste politique, décortique le sondage léger d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, plusieurs secteurs de Repentigny qui sont encore privés d'électricité. Imaginez, là, pour une troisième journée consécutive, là, je regardais le dernier bilan, 1900 clients environ là en ce moment qui sont toujours privés d'électricité du côté de Repentigny. Évidemment, ça irrite le maire Nicolas Dufour là, qui réclame un plan de modernisation du réseau d'Hydro-Québec et Régent Turgeon a eu l'occasion de lui parler.
Ah, totalement, parce que si c'était une fois, puis bon, on comprend là, que quand il y a des températures comme aujourd'hui, il peut y avoir des bris. Le problème qu'on a à Repentigny, c'est qu'il y a plusieurs secteurs, je prends par exemple le Boisé ou l'ouest de la ville, qui c'est des pertes de courant régulièrement. Juste pour vous donner une idée, le secteur du Boisé, là, on est déjà rendu à 9 pannes de courant depuis le début de l'été seulement. Là. Ça va être quoi cet hiver? Puis moi, je commencerais à être gêné parce que à un moment donné, là, c'est de base d'offrir l'électricité. Les contribuables de Repentigny payent des taxes puis des impôts comme tout le monde. On veut le service.
Est-ce qu'on met Hydro-Québec au banc des accusés, M. le maire?
Bien, quand on voit qu'ils ont un programme de 180 milliards pour augmenter le potentiel énergétique du Québec, ben moi, je commencerais peut-être à sécuriser le réseau, ben à s'assurer qu'on arrête d'avoir des pertes de courant. Moi, accueillir des centres de données étrangers alors que les gens du Boisé qui payent des taxes depuis des impôts depuis des années sont même pas capables d'avoir un réseau électrique fiable dans un pays qu'est le Canada, moi, je suis un peu gêné.
On n'est pas dans une crise de verglas pour autant.
C'est ce qui est le pire. Alors, imaginez si, avec la température, on était dans des situations encore pires. D'autant plus qu'on le voit avec les changements climatiques, là, il va y avoir une accélération des intempéries, autant l'été que l'hiver. Et la base, c'est de s'assurer de protéger notre réseau et de le sécuriser. Alors, moi, j'interpelle nos députés provinciaux qui sont en place, qui ont la responsabilité de la gestion d'Hydro-Québec, pour qu'Hydro-Québec arrive rapidement avec un plan de match pour régler la problématique définitivement à Repentigny.
Est-ce que les services de la ville sont pour autant affectés?
De notre côté, non. Puis même l'hôtel de ville est ouvert jusqu'à 20 heures, donc les gens peuvent appeler s'il y a des problématiques. Même chose, nos travaux publics sont ouverts jusqu'à 22 heures. On a aussi ouvert des centres là, à la bibliothèque Robert-Lucier, au centre Laurent-Venne, ainsi qu'à la piscine Jacques-Dupuis pour accueillir les citoyens là, s'ils ont des problématiques. On suit l'évolution, j'allais dire d'heure en heure, mais de minute en minute, pour être sûr et certain que s'il y a d'autres opérations à mettre en branle, là, on va les activer rapidement.
Est-ce qu'effectivement, on pourrait envisager une situation d'urgence?
Oui, effectivement. Donc, c'est pourquoi on reste alerte. Toutes les équipes sont prêtes à la ville de Repentigny. Puis s'il y a une problématique et on doit passer à un niveau supérieur, on va le faire.
Votre message aux citoyens dans l'intervalle, oui, on met des endroits à leur disposition. Mais la patience, ça, c'est limite.
On l'a beaucoup trop travaillé, notre patience à Repentigny avec Hydro-Québec. Et j'invite les citoyens de Repentigny à interpeller leurs députés parce que c'est, je le réitère, le gouvernement du Québec qui gère Hydro-Québec. Et on a deux députés qui sont au gouvernement, dont le premier ministre. S'il fait de l'énergie et de l'électricité son grand dossier, ben, il devrait commencer de s'assurer que dans sa propre cour, on a de l'énergie puis qu'on est capable d'alimenter le réseau des foyers des honnêtes citoyens de Repentigny.
Est-ce que les maires de la Merci de l'Assomption pourraient eux-mêmes unir leur voix et puis dénoncer la situation?
Ah, fort probablement, je vais parler avec mes collègues, c'est sûr, puis je vous cacherai pas, on est jaloux d'Hydro-Joliette aujourd'hui, parce que quand on voit la situation, comment qu'elle gérait à Joliette, puis la manne de revenus qui revient avec, j'ai quasiment envie que la ville de Repentigny se lance aussi dans l'hydroélectricité.
11 novembre, jour du souvenir, on va s'en rappeler.
Ah, toujours, puis on se fait un devoir de mémoire. J'ai eu le privilège d'être député au fédéral, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de vétérans de partout au pays durant mes 2 ans et demi à Ottawa, puis même par après. Pour moi, ça a toujours été une cause qui me tient à cœur. que celle de nos vétérans, parce que c'est des hommes et des femmes qui se sont battus pour la démocratie, pour préserver nos valeurs. Si aujourd'hui on vit dans un état de droit, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, pendant des décennies, ont servi sous les drapeaux pour défendre les valeurs canadiennes. Et ils auront non seulement toujours mon respect, toujours mon appui, mais surtout notre admiration. Et c'est pourquoi, pas plus tard qu'il y a environ 2 ans, on a fait une première place de stationnement qui était dédiée aux vétérans sur la rue Notre-Dame. Et on va continuer à pousser d'autres initiatives pour rendre hommage à ces grands hommes et ces grandes femmes qui servent sous les drapeaux.
Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, je vous rappelle qu'il y a toujours près de 1900 clients qui sont privés d'électricité du côté de Repentigny. Là, on n'est pas dans le fin fond du bois, là. On est à Repentigny en ville. Le problème, c'est l'entretien du réseau d'Hydro-Québec. Ça fait dur, là. Mais quand tu parles d'une ville comme Repentigny, là, ben, il y a un petit peu moins d'arbres que dans le bois. C'est de l'entretien, c'est de l'élagage qui doit être fait premièrement. Et évidemment, renouveler aussi les équipements. Et je salue le collègue Régent Turgeon qui, lui, est toujours privé d'électricité. Dans un instant, on parle avec Mathieu Bélanger, analyste politique, de ce sondage qui est paru aujourd'hui, sondage léger.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Profitez de rabais exceptionnels sur nos modèles 2025 pendant qu'ils sont encore disponibles. Kicks, Sentra, Rogue et plus encore. Venez voir pourquoi Nissan a été nommé marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs par J.D. Power. Nos conseillers se feront un plaisir de vous accompagner lors de chaque étape du processus. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Rock à Joliette et repartez au volant de votre nouveau véhicule. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Grouillant Gumbo est en spectacle le vendredi 14 novembre au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. Un voyage festif en Louisiane au son de la musique Cajun. Les billets sont disponibles en ligne au crapaud.qc.ca.
Ça coule sur les chemins de la mémoire.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Didas, Notre-Dame-de-Lourdes, Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon.
CFNJ 99.1-88.9.
Ici, la musique américaine, on le sent à Trump.
Lanaudière PM, politique provinciale.
16h15, si on se fie au dernier sondage léger, les médecins bénéficient de l'appui de la population en regard à leur lutte là, contre la loi 2 qui fixe leur rémunération en fonction d'indices de performance. On les a vus manifester, d'ailleurs, en fin de semaine au Centre Bell. Le même sondage indique une nouvelle perte de popularité du gouvernement Legault. François Morin en discute avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Mathieu Bélanger, un sondage léger dévastateur pour la CAQ, un sondage quand même à 2 volets. Le premier, on parle des interventions en santé, surtout de la loi 2, et ça ne passe vraiment pas dans l'électorat. On se posait la question tout récemment, est-ce que les gens sont ensemble appuyer les médecins? Et là, il semble que oui.
Il semble que oui. La question, c'est au niveau d'accord que la population a à l'égard des mesures qui sont contenues dans la loi 2, il y a quand même... 47%, donc presque une majorité de gens qui disent « je ne suis pas d'accord », avec 27% d'accord et quand même un bon 26% qui ne sait pas trop. Ce qui est quand même, le 26% de gens qui savent pas trop, c'est quand même un chiffre relativement élevé. En même temps, moi je m'attendais que ce soit encore plus élevé pour être honnête, parce que c'est quand même complexe et tant les médecins que le gouvernement vont nous dire que c'est très complexe, mais ici on voit que... qui est-ce que les gens écoutent? Bien, ce sont les médecins. C'est une des questions, des éléments auxquels on a réfléchi ensemble à plusieurs reprises. Est-ce que les gens ont encore une écoute envers ce que le gouvernement de la CAQ a à dire, envers ce que François Legault lui-même a à dire? Bien, à la lumière de ce sondage-là, de toute évidence, la réponse est non. D'ailleurs, un autre volet du même sondage, une autre question dans ce même volet-là plutôt, on pose la question, est-ce que vous avez une inquiétude à l'effet que plusieurs médecins pourraient décider de quitter le Québec pour aller travailler ailleurs? Et une large majorité, donc 73% des gens, sont inquiets. Donc, les gens sont inquiets et de façon très majoritaire et presque majoritaire en désaccord avec ce qui est sur la loi. François Legault souvent présenté ça comme il faut qu'on agisse maintenant. Ben manifestement, si un des objectifs était de remonter dans l'opinion populaire, c'est clairement un échec à ce stade-ci. Je spécifie à ce stade-ci parce qu'il pourrait toujours qu'à la force d'expliquer ce qui se passe, X, Y, Z, chose, des reportages, je ne sais trop, que l'opinion puisse changer, mais c'est mal parti. Et on le mentionnait, alors qu'un gouvernement a très peu d'écoute de la part de la population, mais à peu près n'importe quelle mesure qui peut être mise avant, bonne ou mauvaise, c'est possible que les gens aient plus naturellement confiance envers les opposants, envers le gouvernement, qu'envers le gouvernement lui-même. En tout cas, c'est ce qu'on voit par rapport à la loi 2.
Et deuxième volet de ce sondage porte carrément sur la popularité. Là, les gens ne veulent plus du gouvernement Legault.
Ça, c'est assez clair. Ça fait déjà plusieurs sondages qui vont en ce sens-là. Lorsqu'on pose la question, voulez-vous qu'il François Legault lui-même reste ou quitte, de façon très majoritaire, les gens souhaitent qu'il quitte. On a un score là, de 61% des gens qui veulent que François Legault s'en aille. Dans ce sondage-là, il y a 71% des gens qui sont insatisfaits envers la gestion du gouvernement. Robert Bourassa, à l'époque, avait toujours l'habitude de dire que ce qu'il regardait le plus, c'était le taux d'insatisfaction ou de satisfaction envers son gouvernement. Ben ici, le signal est très clair à l'effet que la CAQ, ça ne passe plus au Québec. C'est pas une nouveauté parce que ça fait plusieurs sondages qui l'indiquent, mais c'est confirmé de fois en fois malgré les divers gestes faits par le gouvernement. On avait mentionné par un sondage précédent il y a quelques semaines qui indiquait qu'une majorité de Québécois était plutôt en faveur, du moins au niveau du principe, à l'égard de plusieurs projets que le gouvernement Legault souhaitait mettre de l'avant, suite au remaniement ministériel, puis à la nouvelle session parlementaire. Et souvent, le problème pour lui, c'est que, un, les gens ne l'écoutent pas, le gouvernement Legault, et deux, entre le principe général et la mise en application, ben là, il y a un écart. Et sur une idée générale de, par exemple, serrer la vis aux médecins, serrer la vis aux syndicats, même si parfois il y a un appui sur ce principe-là, ben là, dans l'application, et lorsqu'on analyse plus en détail qu'est-ce qui est mis de l'avant par la CAQ et que les opposants, les groupes visés, les autres partis d'opposition se prononcent, mais là, ça soulève l'insatisfaction. Donc, c'est ce qu'on voit dans différents indicateurs de ce sondage-là, sur le taux de satisfaction, sur le taux de gens qui veulent le départ de François Legault. À la question, est-ce que vous estimez que ça va mal au Québec? Là aussi, une majorité, à peu près dans les mêmes eaux, 68% des gens disent « ça va mal ». Bref, dans l'une des questions que François Legault soulignait depuis longtemps, il n'en parle plus depuis longtemps aussi, mais pendant un certain temps, est-ce que je me représente pour un troisième mandat, une des conditions était est-ce que les Québécois veulent qu'il reste? Ben, il y a des indicateurs très très clairs depuis un bon bout maintenant, l'effet que non, les Québécois ne veulent pas qu'il reste et qu'il se représente pour un troisième mandat.
Et il y a un petit élément qui est quand même intéressant à constater, c'est que le Parti québécois perd un peu de plume au profit du Parti libéral.
La tendance se maintient un peu, elle est subtile, est à la limite de ce qui est significatif en fait en termes statistiques. Faut toujours comparer des pommes avec des pommes, donc là ici il s'agit d'un sondage léger, donc faut le comparer avec un sondage léger. Si on le compare à un sondage léger d'il y a un mois, le PQ perd 3 points de pourcentage, donc passe de 36% à 32%, pardon, donc à 4 points d'écart, pardon. Et donc c'est significatif, mais c'est pas énorme, mais c'est significatif. Les libéraux qui passent à 27% alors qu'ils étaient à 25%, donc ici on est vraiment dans la marge. Donc entre les deux formations politiques, l'écart diminue un peu et il y a donc, beaucoup de raisons pour les libéraux d'espérer pour l'avenir. Les libéraux demeurent loin quand même derrière. À 27%, on ne forme pas un gouvernement, c'est clair. Mais à 5 points d'écart, donc entre les libéraux et le Parti québécois, à 5 points d'écart, il y a quand même un espoir pour que d'ici un an, et surtout pendant la campagne électorale, les choses pourraient bouger. J'ai déjà mentionné avec vous, le PQ, même si c'est en avance depuis longtemps, ça demeure fragile, notamment parce que l'appui envers la souveraineté n'occupe pas une place majoritaire dans l'opinion publique québécoise. Et donc, si cet enjeu-là prend plus de place, et c'est ce que le Parti québécois promet, ben on peut imaginer que des adversaires du Parti québécois pourraient regagner. S'il y a une insatisfaction qui commence à se créer avec Paul Saint-Pierre Plamondon, et parfois il a été critiqué sur, pour reprendre une accusation, colibet que François Legault lui avait déjà lancé il y a certain temps, qu'il serait un peu soupe au lait, mais c'est le genre de choses qui revient parfois dans l'opinion publique et qui a un peu de frustration du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, une fragilité à prendre la critique. Si ça devait se cristalliser, cette opinion-là, chez l'opinion publique, il pourrait y avoir un rejet de lui et donc du Parti québécois éventuellement. Et pour ce qui est du chef du Parti libéral du Québec, M. Rodriguez, ben il est toujours pas tant connu que ça de la population québécoise, et donc s'il devait être plus connu, et avec la campagne électorale éventuellement, il le sera nécessairement, ça pourrait changer. Donc il y a de l'espoir pour le Parti libéral, il y a encore beaucoup, beaucoup de croûte à manger si on veut inverser la tendance, mais c'est pas impossible. Puis pour ce qui est de la CAQ, on semble être atteint un relatif plateau autour de 17% des intentions de vote. Encore une fois, un rejet massif de la CAQ qui aurait entre 0 et quelques députés peut-être si la tendance se maintient. Mais donc, la CAQ n'est clairement plus dans la course si la tendance se maintient pour former un gouvernement ni même avoir une place significative aux prochaines élections. Ça semble se rejouer comme à l'ancienne entre le Parti québécois et le Parti libéral, mais avec encore beaucoup d'incertitudes d'ici un an pour voir qui pourrait remporter les prochaines élections.
C'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure avec Pierre Paquette, puisqu'il y a aussi des rumeurs qui enverraient Mario Dumont à la tête de la coalition Avenir Québec.
Lanaudière PM. Communautaire.
Lancement de la 144e guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul de Joliette. L'objectif est qualifié de conservateur à 150 000 $. Et François Morin en a discuté avec André Nadeau, président de la Saint-Vincent-de-Paul de Joliette, là, qui nous parle notamment de la nouvelle pauvreté.
Alors, M. Nadeau, une 144e édition de cette guignolée-là, ça fait longtemps qu'il y a des besoins, mais ce qui est malheureux, c'est qu'il s'accentue.
Oui, malheureusement, ça fait une dizaine d'années que je suis bénévole à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Puis d'année en année, j'espère qu'on voit une amélioration, mais au contraire, c'est une augmentation de la pauvreté qu'on constate dans des strates de population qui étaient jusqu'alors épargnées. Je pense, par exemple, aux personnes âgées qui vivent avec le revenu garanti et avec des loyers de 1300, 1400. C'est sûr que ces gens-là doivent venir nous demander une aide alimentaire. Et souvent, cette catégorie d'âge-là, lorsqu'ils viennent nous rencontrer, ils ont honte de demander de la charité. Et c'est triste, mais c'est des situations qu'on vit. Des gens qui vivent dans leur automobile, ça existe à Joliette, qui vont se laver dans des stations-service, ça existe à Joliette. Des gens qui vivent dans des logements insalubres, il y en a beaucoup à Joliette. La pauvreté est loin de se résorber.
Est-ce qu'on peut parler même d'une nouvelle pauvreté, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas besoin avant, mais là, qui éprouvent des besoins?
Effectivement, les personnes âgées, il y a des gens qui travaillent, qui viennent nous demander de l'aide. Il y a des gens qui travaillent et qui sont sans logis. On a un couple, par exemple, que j'ai vu récemment, qui ont passé l'été dans une tente. Les deux travaillent et n'arrivent pas à se trouver un logement qui convient à leur bourse. Mais c'est évidemment des gens qui travaillent au salaire minimum ou des 20 heures, 25 heures par semaine, mais quand même, tu sais.
Quel est l'objectif qu'on a cette année?
150 000 $. On a fixé quand même été prudent parce que l'année dernière, avec la grève des postes, nous a fait très mal. Et cette année, il y a encore une grève tournante qui peut nous affecter. Là, on prend pas de chance, donc 150 000 $.
Et ça, c'est un minimum parce que ce qu'on a versé en aide l'an dernier, c'est plus que ça.
Ah ouais, c'est 417 000 $ pour 3 855 personnes. Maintenant, c'est... Oui, c'est parce que nos magasins nous permettent tout au cours de l'année de... Les gens qui viennent faire des achats dans nos magasins, ça nous permet de faire des bons alimentaires. Parce que ce qu'on ramasse à la Guignolée, ça sert uniquement ou presque uniquement à fournir les bons de Noël.
Il y aura des activités comme par les années passées là, qui vont s'étaler dans le temps. Là. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes?
Ben, il y a la principale, c'est la boutique de générosité aux Galeries Joliette à la porte 4 où les gens peuvent venir faire emballer leurs cadeaux, venir porter des vêtements, des jouets, des aliments. Et on fait aussi l'emballage de cadeaux à cet endroit-là. Il y a une collecte au métro Bel Air la semaine prochaine. Il y a évidemment cet envoi massif de courriers à tous les foyers.
Voilà, c'était André Nadeau, le président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette concernant cette guignolée. Et si vous êtes dans le besoin, vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas, il n'y a pas de gêne à y avoir. Là, il y a un numéro de téléphone où vous pouvez vous inscrire à partir du 24 novembre. Je vous le donne tout de suite, 450-759-4862, c'est le poste 1.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est plutôt dense depuis le boulevard Bourget et ce jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN, là où ça va mieux, traverser facile vers la rive nord, Repentigny, un peu dense secteur du boulevard industriel. Route 341, la montée de l'Épiphanie, là, entre la 40 et la rivière, l'Assomption, là, c'est passablement lourd en ce moment. Pont Le Gardeur, facile d'accès autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, la 25 nord, lent depuis la rivière des Prairies et ce jusqu'au boulevard des Mille-Îles. Terrebonne, ça va bien pour la 25 Nord. Pont-Sophie-Masson circule sans problème. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction est, c'est dense depuis la montée des Pionniers. Lent en direction ouest là, depuis, je vous dirais, la montée des Pionniers là, sur environ 1 km. Les nouvelles dans un instant.
Amateurs de musique trad, le groupe Artifice sera en spectacle le 20 décembre prochain à l'Échappée Grill et Bar Sportif. Détails et billets en vente directement en restaurant au 710 Visitation Saint-Charles-Borromée. Faites vite, les places sont limitées. Ah ouais donc!
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Ménage Providence, votre partenaire de confiance pour une propreté sans bon sens. Vous rénovez? On nettoie. Après construction ou rénovation, confiez-nous le ménage et profitez de votre espace sans souci. Suivez-nous sur Facebook et appelez Ménage Providence au 450-750-9912. Oui, 450-750-9912.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitre. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
16h30, Pierre Jubinville. Tout d'abord, l'adolescent de 14 ans accusé de meurtre, du meurtre de sa grand-mère va revenir en cours le mois de janvier.
Oui, mais il va faire face à des accusations de meurtre au second degré, mais auparavant, subira une évaluation psychiatrique. On va déterminer sa responsabilité criminelle. La grand-mère de 73 ans a finalement succombé à ses blessures.
Quelle affaire.
Oui, quelle affaire. Hein. Selon des témoignages, l'adolescent avait changé de comportement ces derniers temps. Il consommait de la drogue. C'est la victime, la grand-mère, qui l'hébergeait alors que la mère de l'adolescent était décédée et que son père purge une peine de prison.
L'entente pour indemniser des victimes d'agressions sexuelles au diocèse de Joliette a été acceptée par un juge.
Oui, les 24 victimes d'agressions sexuelles, c'est le juge Donald Bisson de la Cour supérieure qui a indiqué que le diocèse devra payer 5,3 millions de dollars aux victimes pour des faits sur intervenu entre le 1er janvier 1940 et la date d'approbation de l'entente. Parmi les accusés figurent une dizaine de prêtres, dont Monseigneur Édouard Jeté, dont une école primaire de Notre-Dame-des-Prairies porte encore son nom.
Imagine.
Mais oui. Les victimes obtiennent aussi une lettre d'excuse dans laquelle le diocèse comprend que ce règlement ne pourra jamais faire disparaître la souffrance faite aux victimes.
Ça, c'est le centre de service scolaire Les Samars, c'est ça?
Oui, on a fait une demande.
Bravo, bravo, bravo. Non, qu'est-ce qu'on attend pour changer le nom de l'école?
Ah, bien, ils vont tenir une réunion spéciale.
Oui. Il y a toujours 1900 clients qui sont privés de courant du côté de Repentigny. Troisième journée de panne électrique. Le maire Dufour qui est pas content.
Ouais, il réclame des actions concrètes d'Hydro-Québec pour qu'elle modernise son réseau, ce qui permettrait de diminuer le nombre de pannes qui affectent le secteur. Depuis le début de l'été, 9 pannes majeures ont affecté Repentigny, dont le quartier du Moulin, dans l'est de la ville, où d'ailleurs une panne sévit depuis plus de 48 heures. Le maire Nicolas Dufour aura fait donc une sortie en règle contre Hydro.
Mais quand on voit qu'ils ont un programme de 180 milliards pour augmenter le potentiel énergétique du Québec, ben moi je commencerais peut-être à sécuriser le réseau, ben s'assurer qu'on arrête d'avoir des pertes de courant. Moi, accueillir des centres de données étrangers alors que les gens du Boisé qui payent des taxes depuis des impôts depuis des années sont même pas capables d'avoir un réseau électrique fiable dans un pays qu'est le Canada, moi je suis un peu gêné.
On reste dans le domaine de l'électricité, c'est la ville de Joliette cette fois-là qui sent le besoin de répliquer à ceux qui accusent Hydro-Joliette de ne pas avoir d'empathie envers la clientèle.
Oui, c'est le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, qui est déçu d'entendre des groupes communautaires reprocher à Hydro-Joliette son manque d'empathie. Hier, le mouvement d'éducation populaire autonome de la Naudière a affirmé qu'Hydro-Joliette n'est pas très ouverte à négocier des ententes de paiement adaptées à la réalité de chaque client. On écoute le maire.
À un moment donné, quand on a de multiples communications, puis qu'on entreprend différentes démarches, puis c'est toujours impayé, ben la ville est à un moment donné dans l'obligation de couper le service. Par contre, on est ouvert s'il y a d'autres propositions pour faciliter la vie aux gens ou avec les organismes, mais on s'est monté ouvert là, à des rencontres. Donc, c'est faux de dire qu'on a refusé toute rencontre.
Bon, maintenant, il y a le Parti libéral qui reproche à la CAQ de laisser tomber les travailleurs forestiers.
Oui, on reproche François Legault d'avoir baissé les bras dans ce dossier. François Legault a fait réagir hier en évoquant des pertes de 30 000 emplois en foresterie. Le gouvernement a tenté de calmer le jeu par la suite. Legault a indiqué que des programmes de requalification seraient mis sur pied, mais le chef libéral, Pablo Rodriguez, l'accuse de manquer d'empathie.
On peut pas dire à quelqu'un, OK, ben toi, on va te délocaliser, t'es à la TUC, OK, on t'envoie de sa côte nord travailler comme monteur de ligne. Ouais, mais attends, le gars ou la femme qui travaille à la TUC a son milieu de vie, a choisi de vivre là. Elle est probablement là depuis des générations. Ils ont élevé des enfants, ils ont fait des choix souvent difficiles. On peut pas les prendre comme ça, les délocaliser. On va fermer des villages, c'est baisser les bras.
Et en terminant, François Legault là qui s'en fait pas avec les sondages.
Non, puis il continue à défendre l'approche de son gouvernement. Selon le plus récent coup de sonde de Léger réalisé pour les médias de Québécois, le taux d'insatisfaction des Québécois envers le gouvernement caquiste atteint maintenant 71%. On écoute la réaction du premier ministre ce matin à l'Assemblée nationale.
C'est difficile de faire des changements. Il y a une grande résistance aux changements. Il y a des lobbies très puissants qui s'opposent à nos changements. Mais moi, je fais ça pour le bien des Québécois.
Merci beaucoup, Pierre Jubinville.
Bonne soirée, Claude.
16h35.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM Affaires.
Il y a l'Ordre des agronomes qui réclame la modernisation de la loi là, qui régit la profession. Imaginez-vous que la loi a pas été modernisée depuis 52 ans. Et Pierre Jubinville a eu l'occasion de parler un peu plus tôt avec Michel Montpetit, le président de l'Ordre des agronomes du Québec.
D'abord, expliquez-nous ce que fait un agronome dans la vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les jours, les agronomes, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les producteurs dans les différentes productions, que ce soit animales ou végétales. Dans le fond, c'est du conseil au niveau des productions et des agriculteurs être le plus performant possible.
Donc, vous dites que la loi des agronomes, vous la jugez désuète?
Oui, effectivement, ça fait 50 ans que l'Office des professions a mis en place les ordres professionnels et on est un de ces ordres-là qui a la même loi depuis 1973. Alors effectivement, l'agriculture a tellement changé depuis, définitivement que ça ne, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas couverts là, dans la nouvelle réalité agricole d'aujourd'hui avec la loi qu'on a actuellement. Pour finir, il y a aussi des éléments résiduels où à l'époque, quand on définissait ce que c'était un acte agronomique, on parlait d'un mode, d'une façon de rémunérer les agronomes et ça faisait partie de déterminer ce qui était un acte agronomique tout aussi. C'est un peu technique, là, vous me direz, mais effectivement, ça faisait partie de définir l'acte agronomique, le mode de rémunération.
Pourquoi elle n'est pas adaptée à la nouvelle réalité de l'agriculture?
Les nouvelles technologies, les nouvelles formules d'entreprise, comment les entreprises sont construites au niveau légal, les nouvelles entités juridiques et tout ça, beaucoup d'éléments sont apparus depuis ces années-là et notre loi ne couvre pas bien ces éléments-là.
Et qu'est-ce qui menace l'industrie aujourd'hui?
Si on prend un petit peu de recul, ou si je comprends bien votre question, ce qui menace l'industrie du côté du rôle des agronomes, c'est notre mission de protection du public où on veut avoir des outils pour être capable de bien encadrer et de s'assurer que le service qui est rendu par les agronomes, c'est un service de qualité, un service professionnel.
Vous parlez,
et avec une loi qui est désuète, c'est là où ça rend notre travail difficile. Donc, c'est la mission même d'un ordre professionnel et c'est là où on dit que notre loi doit être modernisée pour continuer à assurer ce service de qualité et de bien faire notre mission de protection du public.
Mm-hmm. Vous parlez de conséquences pour les consommateurs et les producteurs. Est-ce que vous avez un cas d'espèce à nous raconter?
Le cas d'espèce, ce serait au sens où, par exemple, si un agronome donnait de mauvais conseils ou des mauvaises recommandations, si ça arrivait, et où l'ordre pourrait vouloir, par exemple, le syndic enquêter dans le dossier, vouloir sanctionner l'agronome ou suspendre son permis, s'il faut se rendre là, on pourrait se faire contester à dire, ben si c'est pas un acte agronomique, ben le code de déontologie s'applique pas. Alors, c'est dans ce contexte-là où ça rend un peu plus difficile d'appliquer parfaitement notre code de déontologie dans un contexte où on peut se faire contester à la base, à savoir si c'est un acte agronomique ou pas.
Vous êtes impliqué en tant qu'agronome dans la gestion aussi des matières dangereuses, je crois.
Différentes matières, vous parlez peut-être des matières résiduelles fertilisantes ou des produits comme ça, ou par exemple dans un contexte où il y a remblais accordé par le CPTAQ. Bon, alors effectivement, si on parle de remblai dans un dossier où la CPTAQ aurait donné son approbation, le travail de remblai doit être supervisé. Il y a deux façons de faire, là, mais si on y va globalement, le travail doit être supervisé par un agronome qui s'assure que la qualité du matériel qui rentre pour faire ce remblai-là respecte les normes et les lois qui sont en vigueur. Alors, si l'agronome encore là fait ce travail-là, mais parce qu'il n'est pas rémunéré directement par le client ou le producteur, ben on pourrait ne pas avoir la capacité d'encadrer cet agronome-là s'il fait un mauvais travail.
Vous souhaitez donc une révision en profondeur de la loi qui vous régit. Quelles sont les grandes réformes que vous souhaitez, qui vous conviendraient finalement?
C'est un peu technique, là, mais je voudrais les articles 24, 25 de notre loi, donc d'avoir un champ d'exercice bien défini. Ça, c'est l'élément 1 de base. Et le deuxième élément, c'est d'avoir des actes réservés, des actes clairs et bien définis, réservés aux agronomes. Donc, c'est ce qui nous permet de couvrir tous les champs d'activité, tous les secteurs. D'avoir ces deux éléments-là, un champ d'exercice bien défini et des actes réservés, nous permettrait définitivement de pouvoir bien encadrer les professionnels, peu importe le secteur d'activité dans lequel il opère au niveau de toute la sphère là, agroalimentaire. Et à ça, une fois qu'on a une nouvelle loi, d'avoir un code de déontologie qui serait modernisé avec cette nouvelle réalité-là de la nouvelle loi, bien définitivement, c'est les deux outils fondamentaux pour qu'on puisse bien faire notre travail.
Ben voilà, c'était M. Michel Montpetit, le président de l'Ordre des agronomes du Québec. Il est 16h41, dans un instant, Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer!
As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, Épicerie Forêt et Pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $. Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super, Super C.
À CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, ça va bien?
Ça va bien, et toi?
Ah, très bien. On va tout d'abord, tiens, on va revenir sur le sondage léger, le Journal de Montréal, là, mais et aussi parler de rumeurs, parce qu'il y a une rumeur qui circule depuis quelques jours qui enverrait Mario Dumont, oh oui, Mario Dumont, retour en politique pour Mario Dumont, qui retournerait en politique à la tête de la CAQ.
Bon, ça me semble assez farfelu parce que la même rumeur avait circulé au mois de juin, je ne sais pas si tu te rappelles, et puis il l'avait démenti de façon véhémente. Il commence une carrière, ben il commence, il y a déjà quelques années, mais là, disons, il a fait sa place au sein des médias. Je crois pas que Mario Dumont va prendre le risque d'aller à la CAQ dans la situation actuelle en quittant ce qu'il a construit au cours des 10 dernières années. Alors,
mais le pouvoir, il a échappé. Il a déjà été chef de l'opposition officielle avec la DQ.
C'est vrai, mais la situation de la CAQ actuellement, là, ça tient pas simplement à François Legault. Là. C'est vraiment une série de décisions qui ont été prises par des ministres. En tout cas, ça, je dis pas, on le sait, en politique, rien n'est impossible, mais ça m'étonnerait fortement que Mario Dumont compromette sa carrière journalistique, médiatique, pour aller à la direction de la CAQ.
Bon, sondage léger. Le Parti québécois qui perd 4 points à 32 %, Parti libéral qui augmente de 2 points à 27 %, la CAQ 1 point 17 %, Parti conservateur d'Éric Duhaime qui baisse d'un point à 14 %, et Québec solidaire qui monte de 2 points à 8 %. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Parti libéral commence à chauffer le Parti québécois.
Ben oui, disons, ils se rapprochent, mais en même temps, il faut être bien conscient du fait que c'est des voteurs qui sont tous dans les mêmes circonscriptions ou près, ce qui fait qu'actuellement, disons que les chiffres qu'on a, le prochain gouvernement sera formé par le Parti québécois et de façon majoritaire, là, avec 32%.
Donc, ce qui explique
74 circonscriptions.
Ce qui explique, selon toi, la remontée des libéraux, c'est le fait que il y a des circonscriptions où des électeurs auraient eu tendance à voter pour, par exemple, la CAQ et seraient partis là, vers les libéraux.
Ben, oui, je pense, parce que là, pour le moment, on peut prévoir à peu près 40 circonscriptions au Parti libéral du Québec. Je dis pas que Pablo Rodriguez a pas changé un peu la donne, mais pas de façon significative. C'est-à-dire que ils renforcent leur position dans des circonscriptions où ils sont historiquement présents. Ceci dit, si j'étais Paul Saint-Pierre Plamondon, je serais quand même un peu inquiet parce qu'on était à 38 % au mois de septembre, mm-hmm. On est tombé à 36, puis là on est à 32. Je m'inquiéterais pas tellement pour le résultat de l'élection. Mais la tenue d'un référendum, est-ce que c'est possible quand tu as 32 ou 33% du suffrage universel?
Ça serait pas le fait d'avoir parlé d'un référendum qui a fait baisser un peu le Parti québécois?
Non, je crois pas. C'est plutôt la conjoncture générale parce qu'ils en parlent depuis Paul Saint-Pierre-Plamondon en parle depuis longtemps. Puis je pense que ça serait très malvenu qu'il change son fusil d'épaule. Là, il paraîtrait un peu comme les autres politiciens, là, c'est-à-dire il gouverne selon les sondages. Mm-hmm. Mais non, je pense que c'est vraiment des déplacements de d'électeurs qui étaient traditionnellement plus caquistes, qui vont au Parti libéral ou des gens qui étaient proches du PQ qui s'en vont, qui retournent à Québec solidaire. Mais ça, c'est, on est quand même loin des prochaines élections.
Admettons, admettons que PSPP là, renonce au référendum dans un premier mandat, puis ils disent, bon, on mettrait ça un deuxième mandat. Si vous nous réélisez pour un deuxième mandat, est-ce que ça ferait pas fuir une certaine base souverainiste du Parti québécois vers Québec solidaire, par exemple?
Oui, ça, c'est évident, puis je pense qu'il fera pas ça. Ça veut pas dire qu'une fois que l'élection aura eu lieu, s'il s'aperçoit que les résultats sont, je dirais pas catastrophiques parce qu'il va former le gouvernement, mais sont pas à la hauteur de ses désirs de revoir sa stratégie. Mais pour le moment, il est trop tôt. Donc, si j'étais lui, je maintiendrais ma ligne concernant la tenue d'un référendum dans un premier mandat. Par contre, je suis inquiet aussi parce que j'ai ouï dire de certaines nominations autour de lui qui me rappellent malheureusement des échecs passés, que ce soit au Bloc ou au Parti québécois. Alors, je suis un petit peu surpris qu'on ait recruté des gens qui ont été, je dirais pas les artisans directs, mais qui ont participé à des élections qui ont été plus ou moins heureuses. Alors, ça m'inquiète un peu, là. Ça veut dire peut-être pas nécessairement que ces gens-là sont mauvais, là, mais ce que je veux dire, c'est le renouvellement de l'équipe autour du chef qui me semble être problématique, là, suite à ces noms que j'ai entendus, là. Mais encore une fois, j'ai pas toute la liste, là, j'en ai juste quelques-uns. Mais encore une fois, je pense que c'est normal que le Parti québécois, qui était si élevé dans les sondages à la fin de l'été, connaisse une diminution. Du côté du Parti libéral, bon, une augmentation de 2, oui. C'est autant que Québec solidaire, tu sais, que c'est pas significatif, moi je pense.
Il faut se laisser là-dessus, Pierre. Oui, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine. Oui, certainement. Ça, c'est sûr. Merci, Pierre Paquette.
Bye. Merci.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Joliette lance son marché de Noël aujourd'hui. Michel Arnault a eu l'occasion de rencontrer le maire Pierre-Luc Bellerose, avec qui il a abordé d'autres sujets chauds de l'actualité.
Pierre-Luc Bellerose, on lance le marché de Noël, édition 2025 aujourd'hui. Encore, il est considéré comme un des beaux au Québec.
Oui, bien, c'est un autre événement qui nous distingue. Effectivement, on a toujours autour de 25 tentes artisans, des événements, des activités aussi en lien avec le marché de Noël. Donc, on a la route aussi des marchés de Noël avec l'Assomption, Terrebonne. Fait qu'il y a des gens aussi avec des autobus ou avec ce réseau-là qui font le tour de ces marchés-là. Donc, au niveau économique, quand même très intéressant aussi, là.
Yvan, nous est tombé dessus comme par magie. C'est comme peut-être pour emballer cette annonce-là d'aujourd'hui.
Oui, bien, c'était pour nous mettre en contexte. Effectivement, on a déjà, je pense, la quantité le normal du mois de novembre en quelques jours. Donc, on est à un mois aussi de Noël, hein? Donc, on va préparer les emplettes. On va se mettre dans ce contexte-là du temps des fêtes. Mais on est très enthousiaste cette édition-là.
Quand on fait de la gestion municipale comme ça, qu'une bordée de neige nous tombe dessus, est-ce que ça vient contrecarrer les plans du prochain budget? Est-ce que ça fait mal?
Bien, c'est sûr que dans notre budget, ça peut avoir un impact. Par contre, quand on regarde ça dans l'ensemble de l'année, habituellement, on a des accalmies qui nous permettent, là, de bon an, mal an, là, d'être autour de ce qu'on avait déjà budgété. Mais nos équipes étaient fin prêtes. Puis on va être en mesure de répondre encore cette année aux besoins, là, que ce soit au niveau des trottoirs. On a de plus en plus aussi de l'hygiène interne pour l'entretien, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui, au fil du temps, passent le flambeau. Mais nos équipes sont fin prêtes, là, pour l'hiver qui se présente, là.
Au cours des derniers jours, les organismes communautaires ont un peu dénoncé le fait que Hydro-Joliette est très insensible ou moins bien nanti. C'est quoi la position de la Ville là-dessus?
Ben, écoutez, j'ai été un peu déçu, là, de prendre connaissance, parce que je comprends qu'effectivement, il y a des enjeux, puis il y a une réalité qui touche de plus en plus de gens. Là, on sait qu'il y a des gens vulnérables, puis le contexte économique est peut-être pas favorable. Par contre, la Ville, de notre côté, n'a jamais refusé d'en compte. Au contraire, on est ouvert à rencontrer ces organismes-là pour essayer de s'adapter autant que faire se peut à leur réalité, d'une part. Puis deuxièmement, tout comme Hydro-Québec, parce qu'on disait que Hydro-Joliette était plus dur, était plus exigeant, où on a les les mêmes règles. On est régi par la régie de l'énergie. Puis on doit se soumettre là, à ces règles-là. Donc, il n'y a pas là, de différence avec Hydro-Québec. Peut-être qu'il y a des programmes qui sont plus favorables. Ça, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Mais les règles, en général, sont les mêmes, que ce soit Hydro-Joliette ou Hydro-Québec. Là.
On ne pourra pas se différencier d'Hydro-Québec, justement, entre autres, là, dans les cas de rebranchement où c'est plus difficile.
Bien, il y a toujours une période hivernale durant laquelle on est dans l'obligation. Puis c'est normal aussi de laisser les gens brancher, que leurs factures soient acquittées ou non. Question humanitaire, là, on débranchera pas des gens en plein hiver. Par contre, à un moment donné, quand on a de multiples communications puis qu'on entreprend différentes démarches puis c'est toujours impayé, ben la Ville est à un moment donné dans l'obligation de couper le service. Par contre, on est ouvert s'il y a d'autres propositions pour faciliter la vie aux gens ou avec les organismes. Mais on s'est monté ouvert là, à des rencontres. Donc, c'est faux de dire qu'on a refusé toute rencontre.
Avec le lancement aujourd'hui des marchés de Noël, est-ce que vous avez déjà eu des engagements pour faire le Père Noël pour certains organismes?
Oui, bien, je sais pas. On pense toujours à moi. C'est sûrement dû au charisme. C'est voilà.
Et à votre joie de vivre naturelle.
Exactement, mon amour de Noël.
Le maire de Joliette, Pierre-Luc Belle-Rose. Voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne pour l'Anaudière PM. Merci à nos collaborateurs. Régent Turgeon, François Morin-Pierre, Jubinville, Pierre Paquette, ainsi que Michel Arnois. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On sera là, nous, demain à 16h pour une autre édition de l'Anaudière PM. Entre-temps, manquez pas Nicolas Bellemare avec son 5 à 7 trad. Et dans un tout petit moment, la vie dans l'Anaudière avec Hugo Valiquette. Bonne soirée, à demain!